Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison d'Histoire de succès, le podcast où je retrace chaque jeudi matin le parcours de mes invités depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte d'un autre podcast qui s'appelle Histoire de Daron où j'interview des pères sur leur paternité. J'ai réalisé pour Mademoiselle des dizaines d'interviews et je suis heureux de pouvoir vous proposer ce format que j'apprécie tant pendant une heure, chaque semaine, avec des personnes exceptionnelles. Cette semaine, je reçois Julien Nil, ou plutôt c'est Julien Nil qui me reçoit dans sa cuisine, slash atelier, slash jardin, slash discothèque, enfin, vous entendrez ça. Julien, qui s'est fait connaître grâce à sa BD Lou, énorme succès de ses 15 dernières années, m'explique sa méthode de travail, notamment pour écrire ses histoires, avec l'aide d'un drôle de jeu de cartes qu'il a confectionné lui-même. Il vous en parlera, vous verrez même si c'est assez peu radiophonique, c'est plutôt... assez explicite. C'est tellement intéressant de voir comment il défait des nœuds scénaristiques, lui qui n'a aucune formation d'auteur ou de scénariste, juste en travaillant sur son inconscient à l'aide de ses cartes. On discute aussi de son parcours, de son enfance où il était un petit garçon rêveur, puis comment il a arrêté son parcours scolaire au moment du lycée pour se lancer dans le graphisme publicitaire, et enfin la rencontre qui l'a amené à devenir auteur et dessinateur de BD. On parle aussi de l'adaptation de Lou au cinéma, de l'effet que ça lui a fait de voir cet univers tout droit sorti de son imagination prendre vie dans un décor en vrai. Enfin, on discute de sa nouvelle BD, qui est la suite des aventures de Lou, qui est désormais adulte. Vous l'entendrez au tout début du podcast, il est quasiment en train de la terminer. Ça sort en novembre prochain. Notez bien la date. Un immense merci en tout cas à lui pour son accueil et de m'avoir ouvert les portes de son inconscient.
Tu veux voir donc le nouvel album?
Ouais.
En avant-première, sur lequel je suis en train de bosser. Tac, alors là, tu arrives au moment où j'en suis à la page, voyons voir, 128 sur 132.
Ouh.
Donc
c'est la fin.
C'est la fin du rush.
J'avais donc, vu la couve.
Voilà, la couve. Ah, ça, c'est la nouvelle version de la couverture.
Ah, yes.
Alors, c'est pas très radiophonique, hein, mais c'est grosso modo une version plus dynamique de celle de l'avant et surtout sur laquelle tous les objets qui sont présents ont maintenant un sens par rapport à l'histoire que j'ai écrite, parce que très souvent quand on fait des bandes dessinées, notre éditeur nous demande une couverture des mois avant qu'on ait fini d'écrire l'histoire, donc j'avais fait une couverture qui donnait le ton, mais voilà, que j'ai dû affiner. Voilà, voilà.
Ok, ça sort en novembre.
Ça sort en novembre, tout à fait, donc c'est Lou Sonata, tome 1. Voilà.
C'est la suite des aventures de Lou adulte.
Alors c'est ça, c'est exactement ça. En fait, c'est la suite. Alors c'est à la fois la suite directe du tome 8, mais en même temps c'est aussi un nouveau cycle. Alors pour l'instant, je sais pas exactement combien d'albums il sera composé, de combien de mouvements. Et donc ça s'appelle Lou Sonata 1 pour l'instant. Donc le premier album étant un mouvement, je pense que c'est assez musical comme connotation et ça va pas mal tourner autour de ça.
Ok.
Voilà, et donc c'est aussi quelque chose que je considère comme étant un album qui est aussi un vrai tome 1, c'est-à-dire que je pense que les gens qui n'ont jamais lu, j'ai vraiment fait en sorte qu'ils n'ont jamais lu Lou puissent aussi découvrir, rentrer là-dedans. Donc bien sûr ça s'adresse à tous les gens qui ont grandi avec Lou. À la base je devais en faire que 8 des albums et puis voyant que au fur et à mesure il y avait de plus en plus de gens qui suivaient, etc., c'était finalement dur pour moi de me dire je vais mettre une fin à cette relation et est-ce que j'ai encore des choses à dire. Donc il y a eu toute une interrogation qui s'est faite progressivement à me dire est-ce que je serai parce que pendant longtemps je me disais est-ce que je vais continuer à être pertinent à raconter les aventures de jeunes gens alors que j'aurais une quarantaine passée, etc. Et puis en fait finalement en me disant ce que j'ai fait dans Lou c'est toujours raconter ma vie, la transposer, etc. Même aux jeunes adultes j'ai encore des choses à raconter, j'ai encore le témoignage de mes questionnements quand j'étais jeune adulte. Et donc voilà, ça a été la clé pour moi pour repartir et retrouver l'envie d'écrire sur cet univers. Un gros déclencheur, ça a été aussi le changement de format. Ouais. C'est-à-dire que je suis passé d'un format de 46 pages qui était un format éditorial qui m'avait été imposé au début, ce qui était complètement normal quand tu fais partie d'une collection. Mais qui n'était pas mon format d'expression naturelle, moi qui lis tout autant de mangas que de comics, que de bandes dessinées franco-belges. Et donc là, j'ai pu, pour la première fois, donc sur ce nouveau cycle, choisir mon format, donc un format qui est un peu plus petit au niveau de la taille, mais par contre avec beaucoup plus de pages, et dans lequel il y a une mise en page qui est du coup beaucoup plus éclatée, beaucoup plus libre. C'est-à-dire que je me permets, tu vois, d'avoir des choses qui partent à la coupe. Je me permets d'avoir un rythme et des splash pages, ce qui s'appelle dans les comics. Mais en fait, c'est pas du tout moi qui ai inventé ça. Hein. On achète le comics moyen, c'est ce genre de narration qui est en fait une narration pour moi beaucoup plus moderne que celle qu'on a nous dans un franco-belge classique. Et donc ça permet au niveau du rythme des choses très différentes, c'est-à-dire que là par exemple si jamais je veux utiliser une page de pause et de respiration, j'utilise une toute petite fraction de mon histoire, alors que sur 46 pages, faire une pause, s'octroyer une page de pause, c'est grignoter quasiment un vingtième de son histoire, quoi. Ouais. C'est énorme. Et là donc ça me libère énormément au niveau du rythme, c'est-à-dire que je pense que je suis à peu près aussi je raconte à peu près autant que dans un album de 46 pages, mais ça me permet de dilater beaucoup plus le temps en fait. Et voilà, et puis graphiquement c'est quelque chose de beaucoup plus agréable de se permettre ça, il y a beaucoup plus de liberté sur la façon dont on va mettre en scène et dont on va jouer avec cette mise en page, quoi. On peut faire des rythmes beaucoup plus différents, utiliser la verticale, l'horizontale, etc. Donc pour moi c'est aussi une façon de continuer à m'amuser, à trouver du challenge.
Oui, j'imagine bien. Parce que là, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait 15 ans que tu fais Loup?
Ça fait une quinzaine d'années, ouais, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, donc il faut trouver l'énergie pour pas se lasser de ces personnages et tout. Mm-hmm. Parce que moi, je sais que ça se voit, je trouve, les auteurs qui ont un succès dans leur vie et qui passent leur temps à traîner leurs personnages, au bout d'un moment, ça devient embarrassant parce qu'ils l'aiment plus. Moi j'ai eu cette chance aussi au début de me dire bon, je vais faire grandir mon personnage parce qu'au moins comme ça va me permettre de raconter des choses différentes et pas de pas être en boucle sur un seul univers, donc ça a été aussi le garant du fait que je continue à m'amuser et ouais. que je pense que c'est aussi ce qui a fait le succès de Lou. Je pense aussi c'est que les gens étaient surpris parce que chaque album était un petit peu différent et qu'il y avait pas de formule. Alors il n'y en a pas pour moi non plus. C'est-à-dire que c'est ça qui est amusant, c'est que chaque album c'est un saut dans le vide total.
Tu sais pas combien de tomes tu vas avoir dans la deuxième série, on va dire.
Alors le truc c'est que moi c'est-à-dire qu'en fait bizarrement j'ai une façon très structuré de construire mes histoires, mais qui est une façon très structurée dans laquelle j'ai beaucoup de liberté. C'est-à-dire que je travaille avec beaucoup d'éléments constitutifs, c'est-à-dire que je sais où je vais, je connais la résolution de beaucoup de choses, mais je sais pas exactement comment j'y vais. Je sais qu'il y a des éléments que je mets en place en me disant bah ça je verrai par après. En fait, c'est un élément qui me sera peut-être utile narrativement ou pas. Donc j'ai quand même en vue toutes ces briques narratives et je sais exactement ce que je veux raconter, mais en même temps je me laisse le soin d'être surpris par le quotidien. C'est aussi un truc intéressant, c'est-à-dire que comme j'écris de façon assez épisodique, par exemple dans cet album qui raconte l'arrivée de Lou dans une qui est donc étudiante et qui arrive dans une nouvelle ville, qui s'installe dans un petit appartement, etc. Donc je raconte ce que j'ai vécu moi quand j'étais jeune homme et quand je suis arrivé à Aix pour la première fois. Je venais de banlieue parisienne.
On va en parler.
Voilà. je raconte aussi en fait l'année de ma fille qui elle est partie faire ses études dans une ville qui s'appelle Lyon. Et là dans Lou va faire ses études dans une ville qui s'appelle Tigre avec un Y. Donc il y a un vrai parallèle un vrai parallèle
vous
là-dessus. Voilà. Et donc pour moi cette synchronicité par exemple elle m'amuse et ce qui a été intéressant c'est que tout au cours de cette année où j'ai écrit l'album au fur et à mesure, tout en ayant prévu des balises, moi il m'est arrivé des choses dans ma vie que j'ai intégrées à cette histoire, c'est-à-dire que le parcours que va faire Lou par exemple dans cette histoire sur la façon dont elle va structurer son travail, dont elle va s'ouvrir aux autres ou pas, tout ça, c'est complètement un parcours que j'ai fait cette année, moi, par exemple, mais que je vais réinjecter, en fait, dans mes souvenirs de jeune homme. Et donc c'est pour ça qu'il y a même si je savais à peu près où j'allais tomber, etc., je me laisse toujours cette ouverture au hasard, aucun incident, où tout d'un coup tu vas avoir il y a par exemple une page qui est très typique de ça dans cette histoire, dans cette nouvelle ville dans laquelle Lou va s'installer. Elle va très vite trouver un bar tabac qui est au coin de sa rue. Elle va être très contente d'y avoir ses habitudes et de trouver dans la personnalité des gens qui sont dans ce bar tabac des gens qui sont rassurants, qui ont un bon sens, qui ont une lucidité, etc. Et donc ce qui est rigolo, c'est que pour moi, en fait, c'est concrètement, ce bar tabac, il existe réellement. C'est le Gaulois Aix-en-Provence qui est au pied de la cathédrale. C'est le bar dans lequel je passe une grande partie de ma vie. C'est dans le bar dans lequel j'écris. C'est dans le bar dans lequel j'ai dessiné une partie de cet album aussi. Alors, je suis pas du tout alcoolique, rassurez-vous, je marche qu'au Perrier. Je bois pas d'alcool. Mais effectivement, en fait, c'est la présence des gens qui sont là, et particulièrement là du patron des lieux qui s'appelle Yvan, et qui est un personnage qui a, cette année, était qui a beaucoup uni mon groupe d'amis, etc. Un monsieur d'une grande sagesse, d'un humour et tout ça, qui était formidable. Et donc ce personnage, j'en ai fait un personnage de Lou. Et donc il apparaît réellement sous ses traits, sous son propre nom. Il s'appelle Yvan. Et par exemple, il y avait un nœud fondamental dans mon histoire. À un moment, Lou devait passer par plusieurs états et il devait y avoir une transformation, donc ça implique qu'il y ait une rencontre ou qu'il y ait un élément décisif et tout ça. Et puis au moment où je suis dans cette quête de me dire comment je vais structurer le discours qui va amener Lou à cette transformation, là j'ai une discussion avec Yvan et une vraie tirade de bar et une vraie discussion comme ça très intéressante parce que le monsieur est humaniste, etc. Et donc évidemment, en fait, ce discours, il suffit que je l'incorpore pile à ce moment-là dans le discours, sans à peine le transposer, pour que ça fonctionne réellement et que ça impacte la suite de l'histoire. Et ensuite, la magie de la bande dessinée, c'est quand tu regardes bien. Là, il y a trois cases en bas de l'image où elle dit « Mais c'est quoi le secret alors pour pas se perdre quand on fait ça ?» Il dit « Le secret, j'essaie d'être tout le temps juste. » Donc c'est cet argument, le fait d'être juste. Et en fait, quand tu regardes bien, symboliquement, c'est placé à l'intérieur d'une clé de voûte.
Yes.
C'est-à-dire que... et aussi, quand tu parles du secret, en fait, tu regardes la case d'avant, Yvan est en train d'éponger un Graal, en fait.
Ah, ouais.
Donc ça, c'est toutes les petits trucs subliminaux.
Les easter eggs.
Mais oui, c'est pas des easter eggs, en fait. Pour moi, c'est subliminal. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, on est dans un bar tabac, et là, il y a Yvan qui dit « Mais évidemment, petite, qu'est-ce que tu crois que je fais ici ? C'est du théâtre. » Et à ce moment-là, en haut de l'image, tu as des rideaux qui sortent. En fait, des rideaux que tu vas pas noter consciemment, si tu veux, mais qui vont encadrer l'image et qui vont te donner un supplément d'information, en fait.
Et ça, c'est pas du hasard pour toi.
C'est absolument. Alors non, mais moi, franchement,
ça pourrait être inconscient, tu sais, non, quand même pas.
Alors si, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que non, t'as raison. C'est-à-dire qu'il y a aussi une grande part d'inconscience. C'est-à-dire qu'il y a une grande part de mon travail. Si tu veux, je pourrais te montrer ça, c'est intéressant, mais c'est autre chose, qui est un travail sur mon inconscient. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'auteurs, je pense que notre capacité, effectivement, enfin, si tu veux, c'est ce monde, ces personnages, etc., ils existent dans notre pensée, on les structure dans notre pensée. Et donc, il y a forcément un rapport avec l'inconscient. Il y a forcément un truc où il y a des moments où ces personnages, enfin, tu vois, tu vas en placer un, tu vas en inventer un, mais qu'est-ce que ça va être inventer un personnage si ce n'est de prendre plusieurs archétypes de gens que tu connais, que tu vas incarner dans un personnage, qui va de temps en temps être une personne, de temps en temps être une autre, donner un point de vue et tout ça, mais miraculeusement, tout d'un coup, tu vas les mettre à discuter ensemble dans ta tête, et il va y avoir une forme de discours cohérent, ils vont se mettre à exister, quoi. Donc ça, c'est super intéressant. Et donc, pourquoi est-ce que je te disais, la prise avec l'inconscient, pour moi, c'est super intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a exprès des éléments, des fois que je vais placer des éléments symboliques ou des éléments qui, moi, par exemple, ont été symboliques de quelque chose pour moi à une époque sans que j'ai besoin, sans que je l'analyse trop. Parce que je pense que Lou elle-même ne l'analyse pas trop. Et donc, par exemple, le cimetière des autobus, qui est intéressant, qui est un symbole que j'avais balancé à ce moment-là, et en fait, dans l'album, je justifie absolument pas le truc.
Et c'est marrant que beaucoup de gens se soient reconnus dans cette histoire, parce que finalement, qu'est-ce qui se passe ? Elle pique une déprime et elle va se coucher dans un cimetière d'autobus abandonné et ça va mieux. Il y a aucune résolution, il y a rien qui est expliqué. Moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est un vrai épisode de ma vie. C'est que j'ai vraiment eu un épisode dépressif à 14 ans et que j'ai vraiment eu ce truc d'aller me coucher un après-midi dans un cimetière d'autobus sous la pluie, de réfléchir, de penser, une forme de méditation adolescente, de spleen, de ce que tu veux, mais qui fait que j'ai trouvé là ma voie, tu vois. Et donc, il m'a suffi de placer ce symbole sans plus d'explication à l'intérieur de l'album pour que, enfin, tu vois, pour moi, si ça a été un moment, un symbolisme qui me fait du bien, je me dis, bah, si je le transpose, ça peut faire du bien à quelqu'un.
Si. Sans doute beaucoup plus universel que ce que...
Bien sûr, ouais. Mais j'essaye de pas super analyser et surtout pas d'expliquer. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que toi tu vas avoir éprouvé à la vision de cette image, et qu'est-ce que ce qui m'intéresse toujours, c'est que le loup, c'est le même principe qu'Hergé, c'est un personnage assez creux en fait. Quand tu regardes bien, c'est sans doute le personnage le moins incarné de l'album, le plus silencieux. Et pour moi, c'est juste un vecteur pour le lecteur. Donc, en fait, les différentes expériences, les différents tableaux qu'elle va proposer, pour moi, effectivement, ça fait un cheminement. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas de délivrer ma réponse et mon cheminement. Ce qui m'intéresse, c'est le cheminement que toi, tu vas faire. Donc, c'est donc un truc qui, où des fois, je me laisse aller justement à l'irrationnel et à l'instinctif. Donc, si tu veux, je peux te montrer ma façon de travailler.
Oui.
Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des reco-séries, des reco-ciné, des reco-livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup, et retour à l'interview.
Alors, Julien est en train de partir chercher une petite boîte dans son atelier, qui est d'ailleurs la cuisine de chez lui, parce que par où il fait chaud.
Il y a à la fois la cuisine, le jardin, la discothèque, le temple, la pièce à vivre, enfin voilà. Okay. Alors, et donc, dans cette petite case, dans cette petite boîte en bois, je sors plusieurs jeux de cartes.
Si vous suivez Julien...
Sur Instagram.
Sur Insta, vous avez sans doute déjà vu ces persos.
Ces persos, et alors je ne sais pas quand on sera diffusé cette interview très bientôt, ouais. Mais par rapport à ces cartes, normalement, en courant septembre, octobre, je vais essayer sans doute en faire une micro-édition.
Ok.
Dans un réseau très local, et je vais faire donc des espèces de petits objets d'art qui seront des versions de ces cartes.
Ok.
Donc, le principe, c'est que ces cartes qui sont des cartes... alors, ça pourrait se rapprocher des arcanes du tarot et du principe du tarot.
Oh, j'allais te dire ça.
Ce qui n'est pas complètement... pas complètement hasard du tout, parce que j'ai le tarot, moi, ça a été quelque chose qui, dans ma vie, m'a toujours intéressé. Quand j'étais ado, j'étais super fan de l'Incal, de Jodorowsky et Moebius, qui, pour les plus jeunes, donc c'était des grands auteurs de bandes dessinées. Jodo, c'est beaucoup plus large que ça, parce que c'est un mystique total, c'est un réalisateur de cinéma... assez brillant mais complètement perché, c'est une forme de battleur, de d'escroc, c'est un cartomancien, c'est un mec extrêmement brillant et cultivé. Ça a été un scénariste de génie, ça a été quelqu'un surtout qui a essayé de monter un projet d'adaptation de Dune dans les années 70, qui ne s'est pas fait, mais qui a assemblé ensemble toute la Dream Team, ensuite qui allait donner naissance à Alien, à Star Wars et à plein de visions de SF qui ont profondément marqué les gens. Donc c'est vraiment une personne pour moi qui a toujours été, dont la carrière m'a toujours intéressé. Et donc il y avait toujours ce truc par rapport au tarot, et pour moi c'est très intéressant quand tu te mets à raconter des histoires, etc., parce que tu te dis qu'est-ce que c'est que les cartes de tarot si ce n'est des arcanes. Et pour moi il y a un truc très intéressant, c'est que tu prends deux cartes de quatre de tarot et tu, suivant l'ordre, ça va raconter, tu vas les mettre dans des ordres différents, ça va raconter trois formes d'histoires différentes. C'est une forme pour moi de bande dessinée déséquencé, c'est-à-dire que et donc pour moi d'ailleurs, dont mon métier c'est de séquencer des images dans un ordre précis, ça fait plusieurs années en fait que je me suis mis à faire des cartes de tarot qui sont une façon de déséquencer ma pensée en fait.
Okay.
Alors ce qui est très rigolo, c'est que tu verras dans l'album de Lou, il y a bizarrement Lou doit écrire un mémoire, donc elle travaille avec ce genre de méthode aussi. Okay. Donc c'est c'est un album assez méta qui explique aussi cette mais que grosso modo, si tu veux, ça vient aussi de ma première méthode d'écriture, qui était, moi j'ai pas du tout j'ai pas fait d'école, du tout de scénario et tout ça, donc c'est très empirique.
On viendra au sujet du podcast à un moment.
Merde.
Mais non, dis pas merde, c'est trop bien.
Donc ouais, c'était très empirique la façon dont j'ai appris à raconter des histoires, parce que ça m'a toujours intéressé, mais je savais pas comment faire. Est-ce qu'il y a des méthodes réellement pour écrire des histoires? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que tout le monde doit la trouver la sienne? Et moi, la mienne, ça a été en fait, elle s'est faite en fait à la base sur ce que je savais faire, c'est-à-dire que j'avais étudié en autodidacte l'animation et donc comment décomposer le mouvement. Et il y a un truc super intéressant quand tu te mets à décomposer le mouvement. De façon très mathématique, parce que faire de l'animation, c'est du dessin dans l'espace et dans le temps, et donc ça a un rapport avec des courbes mathématiques. Tu te rends compte que le mouvement, en fait, c'est une suite de courbes et de vecteurs, en fait. Et donc c'est super intéressant, parce que pour que ton mouvement soit intéressant, il faut qu'il y ait une posture juste au début, une posture juste à la fin, et à l'intérieur, tu crées une jolie harmonique. Donc à partir de là, moi, ça a été mon idée pour écrire des histoires, c'est-à-dire avoir un début, une fin à peu près formalisée dans ma tête. Et ensuite, donc, ce que je faisais, c'est que je savais que j'avais 46 pages à l'époque. Je mettais un post-it sur la case 1, un post-it sur la case 46 avec mon début, ma fin. Et ensuite, je prenais mes post-it et je les intercalais un petit peu partout. Et mon histoire se construisait comme ça, avec des phrases, des mots, des choses comme ça.
Ok. Quoi.
Et donc, c'était une façon intéressante de travailler une histoire parce que t'as une vue d'ensemble, tu vois. Parce que ça te permet de pas être à court de pages à la fin, t'as en permanence ton truc et tout ça, donc c'est comme ça que j'ai travaillé ma méthode pour écrire les histoires. Et finalement, en fait, comme j'avais eu toujours cet intérêt au tarot, que j'avais un très bon ami Bertrand qui est cartomancien, ouais. Entre autres, qui est un mec assez génial et qui est aussi un ami très, très 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 adoré, très chéri, qui est aussi l'inspiration du personnage de Paul dans Lou.
Ouais.
Donc c'est quelqu'un de très important pour moi. Et en fait, on a eu beaucoup de discussions sur le tarot, sur plein de choses, sur la bande dessinée. Et donc, spontanément, je me suis mis il y a quelques années, en fait, à dessiner une carte, à acheter des petites boîtes de Bristol, à les découper avec des formats et de me dire, je vais faire une carte. Et en fait, généralement, c'était dans des moments de ma vie où j'étais bloqué au niveau, narratif, c'est-à-dire que j'arrivais plus professionnel, j'arrivais plus à raconter. Généralement, ça coïncidait évidemment avec des moments aussi dans ma vie où il y avait un blocage quelconque. Et donc, en fait, finalement, la thérapeutique des cartes est venue comme ça. C'est-à-dire que je commençais à poser une carte et à dessiner une carte. C'est là où l'inconscience est important. C'est-à-dire que par rapport à mon travail de loup qui est très structuré, où il y a des étapes de crayonné, où c'est très, très travaillé et très maîtrisé. Là, c'est des cartes que je fais sans crayonner, c'est-à-dire que je me lance directement à l'encre sur le papier sans plus penser que ça.
Oui, donc c'est du dessin automatique.
C'est du dessin qui est limite automatique, okay. Avec une espèce de forme de transe dans laquelle je me mets dans un... J'ouvre une porte, si tu veux, pour un univers. Alors c'est un peu comme ce que je fais sur Lou, mais là c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus... et alors ce qui est rigolo, c'est que ça fait des années que je fais ça et qu'il y a un univers qui commence à naître de ça et qui prend de plus en plus de vie les personnages sont apparus au fur et à mesure que j'ai fait une carte. Tu fais une carte et puis en fait tu fais une deuxième carte pour la complémenter, tu te dis tiens c'est intéressant si je prends ce concept et que je le mets à côté de ça, et puis tu vas faire une autre carte et tu te dis bah tiens il y a ce concept là qui s'ouvre, etc. Et je construis mon jeu comme ça, en fait, au bout d'un moment, en me disant, bah tiens, j'ai cette problématique là et tout ça. Et au bout d'un moment, si tu veux, le jeu est fini. Alors, j'ai pas un nombre précis de cartes, mais je sens que j'ai l'aboutissement de quelque chose. Donc déjà, ce qui est cool, c'est que ça fait un objet satisfaisant. et ensuite, en fait, je m'en sers justement pour écrire. C'est-à-dire que quand j'ai, par exemple, je me resserre de ce jeu de cartes et je peux tout à fait investir chaque carte ou chaque personnage dans un symbolisme de tel truc et tel truc et re-raconter l'histoire que je suis en train de raconter sous forme de cartes. Tu vois. Et donc ensuite, je vais m'en servir de façon interne sur, par exemple, des scènes. Par exemple, l'autre jour, j'avais une scène qui posait problème, je savais pas comment m'en dépêtrer, comment les personnages allaient réagir par rapport à ça, il y avait quelque chose qui bloquait. Donc je prends mon jeu de cartes, et là je sélectionne les cartes qui me semblent correspondre à la scène. je les prends en main, et puis là je me dis mais attends, en fait c'est pas très intéressant, parce que justement j'ai sélectionné ces cartes et je sais qu'elles correspondent à quelque chose, etc. Alors que celles que j'ai laissées de côté, c'est peut-être là où il y a quelque chose de plus intéressant, ouais. Et c'est avec ça que je vais me mettre à raconter mon histoire, et c'est comme ça que j'ai trouvé mon nœud, okay. J'ai dénoué mon nœud en fait.
Et donc t'as fait comment, tu les as piochées au hasard ou...
Non, j'ai pris celles qui restaient, celles que spontanément j'avais rejetées.
Ok, d'accord.
Et je me suis dit bah, c'est intéressant parce que c'est justement celle-là. Tu vois, qui sans doute on porte la solution en elle, la solution que j'essaye d'éviter.
C'est pour t'ouvrir un autre champ,
voilà.
En fait.
Mais voilà, c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que c'est un matériau très malléable, ces cartes. C'est-à-dire que ça peut être un support. Il y a aussi quelque chose qui m'avait beaucoup influencé, sans que je l'ai jamais techniquement eu en main. C'était le jeu de cartes de Brian Eno. Qui s'appelle Stratégie Oblique. Okay. Brian Eno, qui était donc un producteur de musique des années 70, qui a travaillé avec tout le monde, de Bowie à U2, qui avait un mec qui a fait de l'ambiance, etc. Et donc, qui est un trip, qui n'est pas musicien, mais qui travaillait donc en studio avec les plus grands, et qui avait conçu un jeu de cartes, Stratégie Oblique, qui était un truc. Il sortait par exemple une carte au milieu d'une session d'enregistrement en disant bah, inversez vos instruments, ou alors pensez autrement, alors jouez comme si vous étiez votre meilleur ami, ou alors retournez l'enfance, enfin des choses, des formes de contraintes.
Okay.
Et en fait, c'est bien sûr de ces contraintes que sont nées des choses très intéressantes au niveau musical. Et la contrainte, en fait, moi, c'est ado, j'étais très fan de Queneau, de Pérec et tout ça. Le fait que je suis à fond dans cette conception que le cadre et la contrainte, en fait, simulent la créativité. Et de manière générale, la bande dessinée, si c'est pas un art de cadre, de cadre, de contrainte, de carré dans des carrés dans des carrés, voilà, c'est un art absolu de la contrainte.
Ouais.
Donc voilà, donc c'est ma méthode bizarre. D'écriture qui est à la fois très rationnelle pour moi, mais en même temps aussi un petit peu holistique et un petit peu et qui laisse place à l'inconscient aussi.
Waouh. Ok. Parce que justement, donc tu me racontais tout ça tout à l'heure et je me disais ok, pour revenir un petit peu au concept de ce podcast, mais c'est très bien franchement que tu racontes tout ça, mais on en reparlera un petit peu après si tu veux bien, parce que en général la première question que je pose à mes invités quand je les lance pas sur tiens qu'est-ce que t'es en train de faire, qui nous a amené à digresser pendant combien de temps là, 20 minutes
je digresse beaucoup.
Ah ben non, c'est trop bien. C'est en fait à quoi ressemblait Julien quand il avait 7-8 ans.
Quoi ressemblait Julien quand il avait 7-8 ans? Bien, je pense que j'étais un gamin extrêmement rêveur. J'avais une situation familiale, surtout vers 7-8 ans, qui était un petit peu chaotique. Enfin bon, parents divorcés, puis un peu chaotique. Mais en même temps aussi des gens qui étaient formidables et qui étaient déjà à fond dans l'imaginaire. C'est-à-dire que j'avais une mère qui était et qui est toujours soprano, institutrice, quelqu'un qui m'a beaucoup fait lire, qui était à fond dans la culture, pour qui c'était très très important de se cultiver. J'avais un papa qui était dessinateur publicitaire, qui était un type très intéressant aussi, etc. Donc qui lisait énormément aussi de bandes dessinées et tout ça. Donc forcément le l'imaginaire et les livres et les films et tout ça comme une source de d'évasion très très importante, c'est-à-dire que, et puis un truc dans lequel effectivement je me suis beaucoup construit, c'est-à-dire que tu c'est là-dedans que c'est dans ces livres et tout que tu vas rencontrer des modèles, des héros, des histoires qui vont t'inspirer, des choses comme ça. Donc j'ai eu très très vite ce rapport très très important à ça, très même des fois j'étais un geek avant que ça soit le la mode, quoi. C'était à l'époque où on nous jetait des cailloux parce qu'on lisait Tolkien et qu'on faisait du jeu de rôle, quoi, tu vois. C'était à l'époque, alors que maintenant c'est un peu le truc dont tu t'enorgueillis, je pense, et c'est très bien, mais à l'époque on n'était pas énormément et on sentait la transpiration, c'était effroyable. Non, pas à 7-8 ans, ça c'est l'adolescence, c'est plus tard, Tolkien. Mais donc voilà, donc à 7-8 ans, je pense que j'étais un gamin qui était déjà aussi beaucoup dans l'imaginaire, dans la volonté de créer. C'est-à-dire que ça c'est le truc qu'on retrouve dans Lou. Encore une fois, je transpose exactement ce que j'ai vécu, ce que je continue à faire, c'est-à-dire une avidité pour les histoires et la volonté de créer autant
que tu absorbes. C'est-à-dire que tu vois le truc très vide avec le truc, et puis avec effectivement cet exemple très chouette d'avoir des parents créatifs et créateurs. C'est-à-dire de, depuis petit, de voir cette magie d'avoir mon père qui pouvait avec un crayon faire apparaître une personne. Et ma mère qui avec sa voix pouvait tu vois chanter quelque chose ou raconter quelque chose, donc ça c'est quand même c'est magique. Donc très vite ce truc où ça devient une passion, tu vois, une envie en permanence de raconter, d'essayer des trucs. Alors je faisais des marionnettes, je faisais des films en Super 8avec mes Playmobil, je faisais des BD, je faisais déjà beaucoup de choses, j'écrivais, enfin tu vois, il y avait ce truc où et c'était pas forcément dans l'idée d'en faire un métier, mais c'était vraiment un truc nécessaire. Et puis la fascination pour mon Dieu, j'adore ça et j'adore cette BD et tout ça, et je peux moi aussi et même des fois en fait, par exemple Tintin, tu vois, j'ai eu une phase où j'étais fan de Tintin, mais il y avait un truc où je trouvais que Tintin, il y avait un truc qui manquait quand même, et donc j'avais commencé à faire les aventures de Tintin mais avec un jetpack parce que je pensais que c'était une meilleure BD que Tintin tout seul. Donc c'était grosso modo des histoires de Tintin mais où il avait un jetpack, ce qui le rendait beaucoup plus efficace.
Ouais, carrément.
Et donc il n'y avait pas, tu vois, d'envie éditoriale derrière tout ça, mais si ce n'est le truc de dire mais attends, c'est trop cool, on peut jouer avec ces personnages, et puis comme tous les gamins, ensuite fils unique aussi, donc le truc de pas tellement jouer avec des gamins de mon âge ou d'être dans l'imaginaire là-dedans, sauf à l'école. Et effectivement, quand tu te retrouves à la maison tout seul, quand t'as plus de copains ou qu'as pas de frères et sœurs pour jouer et pour te raconter des histoires, parce que tous les enfants racontent des histoires incroyables, ils ont des mondes imaginaires. Ensuite, on te demande mais comment est-ce que vous écrivez des histoires et tout. Tu te dis mais attends, quand t'avais 7-8 ans, t'en racontais aussi dans la cour de récré. Tu passais ton temps à te dire bah je serais le gendarme, je serais le voleur, on ferait ci, on ferait ça. Simplement, un jour, t'as arrêté. Moi, j'ai continué à raconter des histoires, tu vois. C'est à me raconter des histoires et j'en ai fait quelque chose de professionnel. Mais ouais, c'est ça. C'était un refuge dans la fiction qui était très intense et qui est devenu effectivement un métier au bout d'un moment.
Ok. Et qu'est-ce qui t'amène à... Parce que tu vas plutôt te diriger vers le graphisme.
Alors ça, c'était bêtement un truc très très familial. C'est-à-dire que mon grand-père était graphiste, il était graphiste publicitaire, donc avant-guerre et après-guerre. Donc c'était l'époque où on travaillait. Un graphiste était quelqu'un qui mettait un bleu de travail, qui travaillait dans une usine avec des imprimeurs, et donc il faisait par exemple les étiquettes de camembert. Tu vois, c'est lui qui dessinait les fermières et les bons moines et tout ça. Il faisait, donc c'est un travail qui est complètement dingue maintenant parce que c'est remplacé par l'informatique, etc. Mais du dessin de lettres, enfin vraiment un travail, un très noble métier qui était le métier de graphiste en fait, vraiment. Et ensuite, mon père a pris la suite. Et mon père est devenu à son tour dessinateur publicitaire et graphiste. Et donc en fait vraiment j'ai grandi dans ce truc là et avec dans le truc bah oui c'est un métier et un métier que pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Et simplement bah quand j'étais adolescent à l'école je j'étouffais un petit peu, j'avais vraiment envie de d'autres choses. J'étais pas très 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 bien calibré pour le système scolaire, mais j'avais aussi si tu veux cette espèce de truc où je savais qu'en travaillant, je pouvais faire ce métier sans trop de problèmes, parce que j'avais quand même confiance en moi. Et puis, j'avais des parents qui étaient extrêmement encourageants, ça j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que je me suis mis à 14 ans à faire de la peinture, etc. D'un coup, je voulais être peintre expressionniste allemand, enfin tu vois, j'avais un truc très romantique et tout ça, et mes parents étaient très très encourageants là-dedans. Et puis ça c'est génial, quoi. Tu vois, alors que je pense que dans beaucoup de familles, t'as un gamin qui fout de la peinture à l'huile partout pour dessiner des nanas à poil à 14 ans, ils se font dégager de la maison et point barre, quoi. Donc j'ai eu cette chance, en fait, d'être encouragé là-dedans, quoi.
Le lycée se passe pas très bien, c'est ça?
Le lycée se passe pas très bien, voire pas du tout.
Tu sèches carrément, tu vas pas trop.
J'arrête en seconde.
Ah ouais, ok.
Ouais, j'arrête en seconde, parce que c'est vraiment plus la peine. Hein. Donc là, je rentre en contrat de qualification dans une boîte de graphisme avec mon papa, qui m'a formé au début, donc ça c'était aussi une chance inouïe. Et donc en fait à l'époque j'avais vraiment ce truc alors de continuer à faire énormément de BD, d'avoir beaucoup de volonté de faire des films, des dessins animés, des choses tout seul, mais très très content de mon travail de graphiste que je trouve et que je continue à trouver extrêmement honorable et que je continue à me définir énormément comme un graphiste plus qu'un dessinateur. Enfin c'est compliqué mais c'est à dire qu'en fait le truc ce qui était très intéressant c'est que moi je
dans le sens où j'ai pas une formation de dessin artistique à la base. Je voulais pas faire l'artiste, tu vois. C'était, et puis c'est quelque chose que je réfute toujours un petit peu. C'est-à-dire que pour moi, mon métier, ce qu'on m'a appris à faire, c'est à communiquer par l'image. C'est-à-dire qu'on me dit, bon ben voilà, t'as un message. Le message, ça peut être aussi trivial que par ici, c'est les chiottes pour hommes. Et donc, tu dois trouver une solution graphique la plus simple et évidente pour que le message passe le plus vite possible. T'es pas là pour faire du beau, t'es pas faire du jeu. Si tu commences à dessiner un chapeau, un pictogramme de bonhomme de chiottes, en fait, ça va être une fraction de seconde trop dans la lecture, et donc il faut épurer ça. Et donc, pour moi, ce truc de très noble du graphiste, de dire, bah, t'es là pour servir un message, tu vois. Quel que soit le message. Et bah en fait, c'est intéressant. Et ça a été intéressant quand on m'a demandé de faire de la bande dessinée, parce que finalement, t'as un métier qui est celui de raconter des histoires, et puis un autre métier qui est comment servir ces histoires au mieux par le graphisme. Et les deux, ce qui est intéressant, c'est que les deux sont interdépendants, et tu racontes une histoire très différente en bande dessinée qu'au cinéma, qu'en littérature. Ou, voilà.
Ok.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Donc ça, c'est entre tes 16 et tes... Parce que t'as ta première BD, Lou, elle, t'as quel âge, t'as 28, 29 ans?
26, un truc comme ça, okay. Je sais plus exactement.
Ouais, ça fait 10 ans quasiment entre les deux, là.
Entre les deux, oui, ça fait 10 ans à peu près, bah, pendant lesquels j'étais effectivement graphiste au tout début. Ensuite, je travaillais donc au tout début, je faisais ce que je te racontais tout à l'heure, je crois que je travaillais pour des produits dérivés, donc je faisais des produits dérivés pour des personnages de bande dessinée française, Petit Duc, pour Titeuf, j'ai fait à l'époque les premiers produits dérivés Titeuf avec un collègue Nob qui est le scénariste et le dessinateur maintenant de Dad et de Mamet. On s'est rencontrés à ce moment-là et on est une vingtaine d'années. Donc j'ai fait ça pendant un moment à Paris. Ensuite, on s'est spécialisé. Je faisais des produits dérivés Looney Tunes. Donc j'ai signé des cartes d'anniversaire avec Titi et Gros Minet. Enfin l'enfer un peu. Mais bon, encore une fois, bon, respectable, un travail de graphiste respectable. Mais là, qui commençait un petit peu à me courir quand même. Et là, donc j'ai eu une opportunité de venir travailler dans ce milieu avec Aix-en-Provence. Je suis descendu à Aix-en-Provence, j'ai travaillé là-dedans pendant quelques années, juste au moment où il y a eu un logiciel qui arrivait, comme le Messi, qui s'appelait Flash, et qui était un logiciel en fait qui te permettait de faire du dessin animé tout seul, et des jeux vidéo et des choses comme ça. Enfin, c'est une technologie donc maintenant qui a 20 ans, qui est obsolète, mais qui à l'époque a été en France et puis dans le monde, pour beaucoup de gens, une petite révolution. C'était au moment où il y a l'Internet qui explosait, les startups et tout ça, et c'était un moyen assez incroyable de gérer du son et l'image de façon dynamique, en fait, sur Internet. Et de faire du dessin animé, du jeu vidéo, des choses comme ça. Et moi, je suis devenu, j'ai toujours été passionné par la technologie, toujours été un petit peu là-dedans, dans les ordinateurs et tout, fasciné. Et là, d'un coup, ça permettait de dessiner et de faire l'animation. Donc, je me suis lancé à corps perdu là-dedans. Donc, ça, comme, dans l'idée de créer des fictions en dessin animé. Et donc, j'avais fait plein de books, plein de bibles, etc. sur tous ces projets que j'avais envoyé à plein de boîtes. J'avais des retours ultra positifs. Tout le monde voulait produire mes séries. Mais enfin, ça a été un truc de fou. J'ai cru que j'allais devenir millionnaire. Mais du jour au lendemain, il y a eu l'explosion de la bulle.
Et
donc,
Internet.
Vraiment, le même jour, il y a toutes les personnes, tous mes interlocuteurs qui m'ont appelé en larmes en disant que c'était fini, qui faisaient leur carton et que c'était mort. Donc là, je me suis retrouvé à faire utiliser cette technologie pour faire des jeux vidéo. Et en tant que graphiste, j'ai travaillé donc pour des clients, c'est-à-dire pour TF1. J'ai fait les premiers jeux vidéo de Koh-Lanta, de la Star Academy, en flash sur le site de Tfou à l'époque. et voilà, donc c'était mon travail alimentaire pendant très longtemps, jusqu'à ce que Jean-Claude Camano aux éditions Glénat retrouve ma piste via un copain, via le fameux Bruno que Nob, donc que j'avais lancé, dont le rêve c'était de faire de la BD. Et bah, par ricochet, il me présente à lui, et donc un peu comme ça, par hasard, je commence à travailler dans le journal Tcho, qui avait été lancé par Zep et Jean-Claude Camano.
Parce que tu oublies de dire aussi, c'est que dans Flash, il y avait une possibilité de développer. Donc en plus, non seulement tu dessinais, mais tu pouvais développer aussi. Donc tu t'étais foutu là-dedans
c'est
aussi.
Ce qui était génial, c'est que dans Flash, il y avait effectivement une manière de dessiner, de faire du dessin animé de façon très simple. C'était super bien foutu. Et il y avait aussi un langage de programmation interne qui s'appelait de l'ActionScript, qui permettait non seulement de faire un personnage, mais de lui donner des instructions et tout ça. Et donc, moi, là, ça a commencé à me passionner. Et je me suis mis à la programmation, et donc je faisais des jeux vidéo de A à Z. C'est-à-dire que je savais faire un jeu vidéo de la programmation à l'animation, jusqu'au dessin, jusqu'à la musique. C'est d'ailleurs comme ça que je m'étais remis à faire de la musique. C'était vraiment pour faire des bandes-son pour mes jeux vidéo et pour mes films. C'est ce côté un peu autodidacte, un peu geek comme orchestre qui fait que j'aime bien maîtriser des tonnes de trucs et que ça m'intéresse. J'adore savoir comment fonctionnent les trucs et les possibilités artistiques qu'offre la technologie. C'est passionnant, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, en permanence, il faut être à l'affût de ça, parce que surtout quand tu travailles dans un espace moderne, etc., il faut en permanence être à la brèche et te dire, mon Dieu, tel logiciel permet de faire ça, maintenant les formats vont évoluer, est-ce qu'on va continuer à lire de la BD de la même façon, même le format de la BD doit changer, enfin tu vois, donc c'est toujours, toujours cette quête technologique qui est passionnante, quoi.
Ok. Donc, pour reboucler un petit peu, mais tu démarres dans le show, c'est ça ?
Je démarre dans le show.
Ça, c'est fou, donc tu te lances dans une carrière. Alors, c'est des strips, c'est ça, au départ ? Enfin,
Dans le show, au début, c'était chouette, c'était sur l'idée, parce que, suite au carton de Titeuf, Zep et Jean-Claude Camano, un directeur de collection à Glénat, décident de lancer ce magazine, et ce magazine sert de vivier, en fait, pour trouver des jeunes talents. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, à ce moment-là, la politique de Tcho, c'est de publier que des auteurs qui n'ont jamais publié ailleurs. Qui ont des graphismes un petit peu différents de ce qu'on connaît ailleurs, qui sortent un peu du franco-belge traditionnel, etc. Donc, je fais partie de cette mouvance. Pendant un an ou deux, je travaille dans le magazine. Alors c'est intéressant, il y avait un côté vitrine, ça nous permettait de nous tester. Donc je fais des jeux, des animations, des pages d'énigmes et des choses comme ça. Ce que je faisais, c'était pas super intéressant, pas très malin. D'ailleurs, Jean-Claude n'était pas très à fond sur ce que je faisais. Il avait bien raison, parce que je faisais un truc assez cynique, finalement. Et puis, d'un coup, il me dit « Est-ce que tu veux lancer ta série ?»
Comment ça, cynique ?
Je faisais des bandes dessinées d'enquêtes qui étaient en fait un peu des pastiches des personnages des années 50 et 60, où les personnages dans ces histoires étaient volontiers un peu racistes, un peu réac, etc. Et donc, mon personnage était un petit garçon un peu réac comme ça. Et moi, ça me faisait mourir de rire parce que j'avais l'impression de me moquer, en fait. Et effectivement, c'était l'humour venait du fait qu'il y avait un décalage, que le personnage était réac comme l'était. Et en fait, Camano, qui était un vieux mec bourru, tu vois, qui parlait pas beaucoup et tout, il me disait non, mais ton truc c'est nul parce que c'est pour les gamins de maintenant, de 12 ans, le personnage est juste réac. C'est-à-dire qu'ils ont pas le décalage, tu vois, ils ont pas le. Et donc tu mets du second degré dans une publication, en fait, qui doit être lue au premier degré. Et en fait, il avait super raison là-dessus. Et c'est pour ça, en fait, ça a été vachement important pour moi, parce que du coup, je me suis vachement affranchi de pas mal de trucs, du cynisme.
Okay.
Ça te donne une vraie responsabilité aussi. Tu dis, non, mais t'as raison, tu parles aux gamins d'aujourd'hui. Donc, par exemple, les références, faut faire super gaffe, tu vois. Et je me suis mis à détester la parodie, en fait. Je trouve que la parodie, c'est quelque chose, un genre qui vieillit très mal et qui est en fait un genre très, très néfaste, en fait. Okay. Donc du coup c'est ça qui a vachement ça a été le coup de fouet en fait qui m'a dit non mais voilà il faut que je fasse une bande dessinée loue et tout ça, j'ai cette responsabilité, cette chance d'être publié dans un grand éditeur et tout ça, je suis tellement redevable à la bande dessinée, c'est-à-dire que j'y ai tellement puisé de choses quand j'étais gamin et je continue hein, parce que chez moi c'est il y en a partout, enfin, pas spécialement beaucoup dans la cuisine mais sinon il y en a partout. Et donc en fait là d'un coup je me suis senti investi d'un truc, d'une responsabilité forcément. Et puis en même temps, il y avait cette histoire que j'ai déjà racontée plein de fois, mais ma fille qui était née il y a quelques années, donc ça coïncidait avec la volonté de créer un personnage aussi féminin fort et qui soit alors ensuite toute l'ambiguïté, ça a été pendant très longtemps, je me suis trimballé et je continue encore à lutter contre cette idée de BD girly et de BD pour filles, parce que pour moi c'était absolument le contraire de ce que je voulais faire, et je continue à m'en défendre. C'est-à-dire, pour moi, c'est une bande dessinée avec juste un personnage féminin qui est fort, qui a du rebondement et qui est moderne. Là où je trouvais que dans la bande dessinée jeunesse, les personnages féminins étaient pas spécialement toujours bien représentés, et voilà. Et moi, simplement, je sais que ça m'avait tellement aidé de me projeter dans des personnages positifs quand j'étais petit, ou des personnages qui vivaient le même genre de choses que moi, que simplement je me suis dit tiens, je vais faire ça, et comme j'ai une fille, bêtement, je vais faire en sorte qu'il y ait une porte d'accès supplémentaire pour les filles. Mais ensuite, bien sûr, l'horreur d'être catégorisé dans la BD pour filles et dans le truc girly, ouais, qui était terrible pour moi, quoi.
Mais en plus, d'un autre côté, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de personnages, enfin de BD avec des personnages principaux.
Non, il n'y en avait pas énormément.
À l'époque ?
Non. Et puis même, là, effectivement, la vision des petites filles dans la plupart des bandes dessinées jeunesse, c'était on était forcément un peu amoureux d'elle, on lui foutait forcément un peu la main aux fesses. Enfin, il y avait un truc où c'était un petit peu réducteur.
Là, en plus, on est en 2004, là, c'est ça.
Ouais, c'est ça, ce qui est assez dingue, c'est-à-dire que c'était pas, et ça l'est toujours pas. Enfin, Dieu merci, il y a maintenant une parité énorme qui arrive dans le milieu de la bande dessinée, et qui est même un raz-de-marée, puisqu'il y a beaucoup plus maintenant d'auteurs, je sais pas comment.
Autrices.
Et il y a de plus en plus d'autrices qui arrivent et qui sont dans les écoles d'art. Maintenant, il y a beaucoup plus de filles que de garçons et tout ça, et donc ça, c'est une respiration. Et ça va être une respiration créative et je pense un beau raz-de-marée, tu vois, en fait, d'enfin avoir une vraie parité là-dessus, ça va être super intéressant, quoi.
Donc enfin,
et c'est déjà super intéressant.
Ça l'est déjà, parce que ça a été. Parce que je disais ça, 2004, en te faisant style, c'était il y a longtemps, mais en vrai, c'était il n'y a pas très longtemps.
C'est ça qui est fou. C'est qu'il y a 15-16 ans, c'était pas aussi évident que ça de trouver. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il y a 15-16 ans, et c'est aussi pour ça que tout ça a très vite marché, c'est que bêtement, on arrivait dans une librairie de BD en disant j'ai une petite fille de 10 ans, est-ce qu'il y a une BD pour elle? On lui disait, oui, il y a Lou. en fait, il n'y avait pas énormément d'autres choses. Heureusement, maintenant, qu'il y avait beaucoup de choses. Ensuite, tout mon débat, c'est qu'on puisse aussi le conseiller à un petit garçon de 10 ans. Et ça, c'est un gros problème avec les libraires, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'il soit prescripteur aussi de ça et que ça soit. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a quand même une topologie de mon public qui a changé beaucoup. C'est-à-dire, même en 2004, je sentais que les petits garçons qui allaient vers Lou, j'en avais quelques-uns de temps en temps en dédicace, et c'était généralement des gamins qui faisaient ça, qui avaient vraiment qui prenaient beaucoup sur eux, tu vois, c'était un peu compliqué. Maintenant, de plus en plus, dans mon public, on est beaucoup plus heureusement mixte, et ça, c'est une grande victoire et intéressante victoire et évolution de la société, effectivement, que même pour les petits garçons, parce que moi, derrière tout ça, il y a aussi l'histoire d'un petit garçon qui était fasciné par les poupées, par par le rose, par les choses mignonnes, par les peluches, tu vois, par tout un tas de trucs auxquels tu as une injonction très forte dans les années 80. On te dit non, toi c'est Musclore et basta. Alors Musclore, qui est par ailleurs j'idolâtre et que je suis
Musclore, c'est trop bien.
Non, mais tu vois, le truc c'est mais pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'avoir une Timmy aussi, tu vois. Et ça, c'était aussi le combat, enfin un combat normal qu'on mène tous aussi, je pense, par rapport à ça, quoi. C'est de te dire on va s'affranchir de toutes ces choses-là et de toutes les frontières du genre. Et ce que j'essaie effectivement le plus possible dans Lou, c'est que d'essayer d'être non-genré. C'est-à-dire que je pense jamais à mes personnages en termes de c'est une fille, c'est un mec. Jamais c'est ça, quoi. Et en plus, ce qui me fait rire, c'est que justement, tout mon astuce, c'est de transposer à chaque fois des archétypes et des différents personnages dans telle ou telle personne sans me soucier du tout de l'âge, du sexe, etc. Et en plus, c'est interchangeable. C'est-à-dire que des fois, la mère de Lou, ça va être mon père, ça va être ma mère, ça va être moi, ça va être ma fille, ça va être ma femme, etc. Au final, c'est le personnage, il est incarné par des fois un homme, une femme, etc. Et je m'en fiche. À la fin, pour moi, ça donne un personnage qui est réel. Et on me dit, vous écrivez si bien les femmes, en fait, tu vois. Alors que pas du tout. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que j'ai beaucoup de mal à écrire les personnages masculins. Et à part quelques-uns, mais très souvent, il faut que je travaille là-dessus, mais mes personnages masculins sont un petit peu lâches ou un petit peu faible. Mais en même temps, c'est bien.
ça change un peu de l'archétype et du...
Ouais, bah il y a un côté Wes Anderson aussi que j'aime bien là-dedans, c'est-à-dire de montrer effectivement le, tu vois, le l'espèce de sublime du mal qui est complètement érodé par l'époque, et qui est un petit peu pathétique. Attends, il y a une invasion de tortues dans cette maison, c'est terrifiant. Tu vois, je t'avais prévenu.
Elle est en train de gratter.
Non, mais elle est en train de tout défoncer.
Alors, il y a donc, pour l'audio guide, Julien, donc des tortues qui cherchent à
Julien,
tout prix.
Voilà, vit depuis 2 ans une lutte intestine avec les tortues qui peuplent son jardin et qui essayent désespérément de rentrer dans la maison par tous les moyens.
Afin de manger la bouffe du chat.
Exactement. Et voilà. Et donc, tous les jours, il y a une nouvelle barrière anti-tortue. Et tous les jours, elles trouvent une nouvelle stratégie. Et là, elles sont en train de percer du polystyrène. Et c'est très impressionnant.
C'est très fort. Hein.
Voilà, c'est très fort, très rapide. Il y a plein de clichés sur les tortues qui sont absolument pas valides. Je suis un peu zoologue aussi.
Est-ce que tu veux les t'en débarrasser ou non ?
Non.
Ok,
on va
les laisser creuser.
Non, mais en fait, des fois, elle gagne et je les laisse aller bouffer des croquettes parce que je lui dis non, mais franchement, bravo.
Ah oui.
Quoi. Ouais, et puis c'est un peu un jeu hein, quand même. Mais là, c'est assez effrayant. Quoi.
Oui, en fait, on parlait justement de Lou qui sort en 2004. L'autre truc génial, c'est que le Festival d'Angoulême te file un énorme coup de pouce aussi en le célébrant, en donnant le prix de l'album jeunesse.
Ouais, j'ai eu cette chance dès le premier album qui était sorti depuis quelques mois et tout ça. Il y a eu effectivement un prix jeunesse au Festival Angoulême, en plus qui est un prix intéressant parce que c'est un prix qui est le jury, c'est des gamins. Mm. Donc c'est a priori un prix assez objectif, donc c'est agréable. Et puis ce même jour quasiment, il y a les producteurs du dessin animé de Lou qui m'ont contacté aussi parce qu'ils étaient intéressés par la série avant même qu'elle ait eu un prix, donc ça augurait de bonnes choses quoi. Et donc je suis passé effectivement d'assez vite d'une série qui était un premier tome à une série qui a plutôt bien marché quoi, donc c'était bien agréable.
Comment tu le vis à l'époque? Parce que c'est pas...
Je le vis très bien parce qu'à l'époque surtout je le vivais assez mal, c'est-à-dire que c'était la fin de ce truc de graphiste et le début d'un travail d'auteur de bande dessinée et malheureusement, enfin il faut que je dise ça, mais clairement c'est pas un métier qu'on fait pour gagner de l'argent, de la bande dessinée, c'est un métier qui est en plus en ce moment en crise, enfin il y a un vrai problème avec les auteurs et avec la façon dont on est rémunéré, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'on est très peu d'auteurs en fait finalement à arriver à vivre dignement de notre métier. Et donc moi j'ai connu ces débuts très durs où effectivement je devais travailler sur mon album de BD tout en faisant des boulots à côté avec ma femme qui faisait ses études à ce moment-là. Et donc on a connu les vaches maigres ou enragées, je sais plus comment.
Maigre,
en 10 ans, 1945. Et donc en fait le truc, au moment du tome 2, parce qu'en fait il y a un décalage terrible entre le moment où tu fais une bande dessinée, tu l'illustres, le moment où elle est vendue, le moment où les libraires font l'inventaire et comptent combien t'en as vendu et ton éditeur t'envoie ton chèque, il y a un délai qui est énorme, surtout pour un jeune couple, etc. Et genre au moment du tome 2 de Lou, j'ai failli arrêter parce que j'étais éreinté financièrement. Et heureusement, là, le truc des droits d'auteur a commencé à s'amorcer. Et là, j'ai donc commencé à pouvoir sortir de la tête de l'eau et en quelques années à vivre à 100% de la bande dessinée. Donc ça a été effectivement pour un couple qui venait d'avoir des enfants, etc. C'était un soulagement terrible de pouvoir être un peu plus à l'abri du besoin, parce que voilà, c'était pas évident au début.
Ok, donc à ce moment-là, tu décides d'arrêter vraiment ton métier de graphiste, c'est ça ?
À ce moment-là, je décide d'arrêter mon métier de graphiste parce que de toute façon, la BD me sollicitait de plus en plus, qu'il y avait effectivement cette histoire d'adaptation en dessin animé que j'ai un tout petit peu supervisé quand même. Et puis, très vite, devoir enchaîner un deuxième, un troisième album. Ensuite, j'ai contacté par Gallimard pour faire un autre album qui s'appelle Chaque Chose. J'ai fait un autre album avec eux qui s'appelle Le Viandier de Polpette, Le Film de Lou. Enfin voilà, au bout d'un moment, en fait, le métier de graphiste, c'est devenu impossible, quoi. Et puis, effectivement, j'en avais plus besoin parce que ce que je gagnais en droit d'auteur me suffisait à payer mon loyer, quoi.
On parle de... Elle est en train de gagner contre le polystyrène.
Oui, la tortue, non mais c'est effrayant.
C'est très fort.
C'est très très costaud.
Tout ça pour des croquettes.
Tout ça pour des croquettes. Je pense qu'elle va faire tomber la plaque de bois.
Voilà, la détermination est totale. Qu'est-ce que je voulais te dire aussi ? Oui, parlons de cette aventure au cinéma, mm-hmm. qui est fou quand même, parce que comment ça se goupille à l'époque ? Tu te fais contacter par...
En fait, le truc, c'est que il y avait eu cette expérience avec la télévision et avec l'adaptation de Lou en dessin animé. Qui était une adaptation dans laquelle j'avais eu ce qu'on appelle un droit de regard. J'ai pu être impliqué dessus, mais pas forcément autant que ce que je voulais, ni au niveau graphique, ni au niveau de l'écriture et tout ça.
T'en étais pas spécialement fier.
C'est très dur pour moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette série. Pour moi, je sais que c'est je considère ça comme étant une adaptation de mon univers par d'autres gens. Et donc forcément, pour moi, je la considère pas comme mienne. Okay. Je l'assume pas à 100%. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des épisodes, des dialogues, des parties pris graphiques, etc. que je ne reconnais absolument pas. Tu vois, qui me plaisent absolument pas. Ensuite, je sais que cette série, elle a été aussi intéressante parce que ça a été un excellent spot de pub pour les albums. Je pense que beaucoup de gens se sont mis à lire les albums et j'en suis très reconnaissant envers les producteurs du dessin animé, en plus qu'on vraiment fait un super travail et qui sont des gens super, Anne et Eric, avec qui on a travaillé. Mais le fait est que j'ai eu cette frustration, si tu veux, de ne pas écrire et réaliser cette série. Frustration qui était très forte à ce moment-là et qui était même un petit peu... si tu veux, un petit peu devenu du net et définitif, comme quoi je ne travaillerai plus jamais pour la télévision, l'audiovisuel ou quoi que ce soit, parce que justement on perd du contrôle quand on commence à rentrer dans ce genre de production, enfin ce que je croyais à l'époque. Et là, il y a un producteur, donc Harold Valentin, qui travaillait pour une maison de production qui s'appelle Move Movie, qui un jour dans un train tombe par hasard sur un album de Lou et ça l'intéresse. Lui, il cherche à produire des nouvelles histoires, peut-être pour la télé, pour tout ça. C'est quelqu'un qui a produit aussi 10%, quelqu'un qui cherche des nouveaux talents. Il vient me voir ici à Aix en me disant alors moi j'étais très suspicieux au début parce que justement échaudé par mon aventure du dessin animé. Et puis, donc, qui vient me voir au début pour l'écriture, machin, des trucs, des projets, etc. Et puis, il me dit, Lou, sinon, en adaptation, comment est-ce que tu vois ça ? Et donc, moi, je lui dis simplement, à part si c'est moi qui l'écris et le réalise, il n'y a pas moyen, parce que, ça m'est déjà arrivé, etc. Et donc, je dis vraiment ça pour le faire fuir, le pauvre Harold, tu vois, pour me dire, je veux pas ça. Et là, le mec me dit, banco. Banco, tu l'écris et tu le réalises, etc. Un petit peu un choc, là, tu vois, quand même. Mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Et puis, un type formidable qui me met en confiance, etc., qui me présente toute une équipe, donc l'équipe de Bruno Lévy, Move Movie, et mon Dieu, je ne trouve pas son nom, il va me gronder. C'est pas ceux qui me Move Movie. Mother Production et Move Movie, voilà, je les ai tous les deux quand tout va bien. Et donc, ces gens-là, en fait, une équipe formidable qui commence à. Le film commence à rentrer en production, on présente des gens incroyables pour travailler avec moi, des artistes géniaux, que ce soit les comédiens, que ce soit l'équipe de décoration, que ce soit une personne qui a été formidable, Sylvie Perret, qui était la chargée de production du film, sans qui rien n'aurait pu se passer, qui était une merveilleuse personne. Et puis la rencontre avec toute l'équipe, etc., c'était génial. Et en fait, j'ai eu cette liberté totale à peu près de faire ce que je voulais sur ce film. Et pour le coup, si tu veux, même si ce film a sans doute ses défauts, etc., ça, c'est des défauts que j'assume parce que ce sont les miens, tu vois. Et puis de toute façon, ce film-là, aucun défaut, il est parfait. ça a été une expérience géniale, en fait, de travailler comme ça d'un coup. Et puis tu t'imagines, pour justement quelqu'un qui a travaillé, qui a fait naître tout ça de son inconscient, ses personnages et tout ça, d'un coup, tu te retrouves avec... avec Ludivine Sagnier déguisée en un de tes personnages, tu vois, c'est dans le décor, notre décor qu'on fait construire à Bry-sur-Marne. Je sais pas si t'étais passé.
Si j'étais passé, c'était génial. C'était
complètement fou, parce que moi j'avais vraiment cette volonté de faire un film pas du tout réaliste, c'est-à-dire qu'il soit vraiment dans une espèce de fantasme de réalité, comme l'est la bande dessinée. donc de travailler le plus possible avec un décor artificiel, etc. Donc on a eu Sylvie Olive, une décoratrice mais fabuleuse, et son équipe, qui ont construit un truc mais qui était complètement dingue. Et voilà, et ça, je trouve que encore maintenant, je l'ai revu, le film est sur Netflix en ce moment, et il a de la gueule, quoi, tu vois. Il y a un truc où là, au niveau design et tout, il a pas vieilli du tout, et au contraire, je pense qu'il restera intemporel et qui vieillira bien, en fait, tu vois.
C'est fou à quel point t'as réussi, enfin, toute l'équipe a réussi à recréer ton univers.
Ah bah alors là, par exemple, t'as un truc qui est rigolo, c'est que la fameuse Sylvie Olive, qu'on a commencé à travailler ensemble, quand je lui ai expliqué le concept des décors, ce que je voulais, par exemple, le truc très chargé avec un bordel, tu vois, un joli bordel. Et en fait, elle est venue ici, à Aix, dans la pièce où t'es. Et elle a tout pris en photo. Et en fait, elle a travaillé tous. Et en fait, tu vois, elle avait découvert qu'en fait, mon bordel, qui a l'air d'être un foutoir, en fait, je le classais par couleur. Mais même moi, je le savais pas, tu vois, c'était mon inconscient qui faisait que je faisais des harmonies d'objets ou de choses. Et en fait, elle a incorporé tout ça dans, enfin, c'était une collaboration artistique, mais qui était complètement dingue, quoi. Et donc voilà, tous les j'ai eu cette chance incroyable là pour le coup, alors que si tu veux, bizarrement, j'étais dans un truc qui était beaucoup plus casse-gueule. A priori, tu te dis une série animée, là on est dans un gros film avec des grands acteurs, enfin tu vois, Ludivine Kian, enfin incroyable, François Rollin, Julie Ferrier, enfin des gens que j'adore qui jouent là-dedans, mais il y a des gamins qui sont des révélations et tout ça, enfin un truc incroyable. Et là-dedans, j'ai pu naviguer vraiment relativement à vue. Il y a que sur la post-prod, sur le montage et le montage et effets spéciaux, bizarrement, qui étaient plus ma partie, le côté très geek, en fait, où je pensais en fait récupérer les images et pouvoir m'en emparer et faire quelque chose. Là, je me suis retrouvé finalement dans un truc très bizarrement beaucoup plus une grosse machine, tu vois, que j'imaginais pas. Moi, je pensais pouvoir faire tout sur mon Mac, et je reste persuadé que j'aurais pu le faire, tu vois. Et là, je me suis retrouvé avec des sociétés de post-prod qui faisaient facturer les trucs très chers, avec un monteur qui montait le truc avec moi, mais franchement, j'aurais pu le faire tout seul, ça aurait été vachement plus rapide et plus dynamique. Donc voilà, une petite frustration sur la post-prod et tout ça. Je pense qu'on aurait pu gagner un peu plus de pêche et tout ça. Mais une expérience fabuleuse, quoi.
Parce que tu montes des vidéos aussi de cette là-bas. Tu fais ça depuis que t'es gamin, c'est ça, j'imagine.
Oui, c'est ça. Puis avec l'animation, si tu veux, l'animation, c'est un art du monde, c'est un micro art, enfin du montage, parce que tu dessines chaque image. Donc là, t'es au-delà du montage, si tu veux, quand tu fais de l'animation, c'est-à-dire que t'es sur le geste de la pupille, du truc, du machin, comme ça. Et forcément, quelqu'un qui anime, enfin, pour moi, en plus, j'ai une conception particulière de l'animation. C'est-à-dire, je suis pas un animateur dans le sens où je suis pas quelqu'un de très bon pour, et je suis pas même au niveau dessin, je suis pas quelqu'un de très technique, etc. Ce qui m'intéresse, c'est comment composer une image et comment créer un mouvement pour raconter, encore une fois. Et donc, par rapport à ça, forcément, tout mon art de l'animation, enfin toute la façon que j'ai d'appréhender l'animation, c'est du montage. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus inspiré de la façon de faire japonaise, où en fait, quand tu regardes l'animation japonaise, il compense le fait qu'il n'y a pas énormément de mouvements et d'intervalles entre les pauses. Mais par contre, il y a une invention sur le montage et sur le truc qui fait que c'est mille fois plus dynamique que si tu te faisais chier à animer le personnage à 24 images par seconde à la Disney, quoi.
Oui, je vois.
Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et que j'adore. Enfin, voilà. Et puis, puis ensuite, il y a un truc aussi avec la musique que je fais beaucoup en amateur, si tu veux, le montage, il y a un côté très très musical et très rythmique. Et effectivement, c'est un des trucs qui m'amuse le plus, c'est de monter à l'image et de monter là-dessus, quoi.
Ok. Tu disais tout à l'heure que tu étais sur le point de sortir un album pour la promo du... Est-ce que c'est un scoop ou pas? Je ne sais pas si.
Oui, c'est une sorte de scoop.
Wow.
Mais effectivement, là pour la promo du prochain album qui sort en novembre, en fait j'ai eu une idée un petit peu, je sais pas, un petit peu folle ou un petit peu logique en fait. C'est-à-dire que comme cet album a été écrit, c'est un album qui parle aussi du groupe d'amis, etc. Quelque chose qui m'a porté ces dernières années, etc. Et puis dans ce groupe d'amis, il y avait beaucoup de musiciens. La musique a pris beaucoup de place de plus en plus dans ma vie. J'en fais, etc. depuis des années, mais j'en fais depuis des années en amateur total. C'est-à-dire que là, il y avait, alors à part quelques incartades où j'ai composé un morceau pour la musique du film ou des choses comme ça, et la musique du film et de la série animée d'ailleurs, j'ai travaillé avec mon ami Julien Dicaro, un grand compositeur. Mais là, j'avais l'envie de, en complément de l'album, de créer de la musique.
Et donc là, on en parle, mais c'est quelque chose qui n'existe pas encore. C'est-à-dire que ça va être une expérience qu'on va faire en fait fin septembre avec des très bons amis à moi. On va se réunir pendant une semaine dans une ferme et on va faire des sessions d'improvisation de musique. Donc avec des musiciens qui viennent du classique, de la world music, du hip-hop. Et donc on va faire de tout ça un album. On va suivre, on va utiliser par exemple les cartes que j'ai utilisées pour travailler sur cet album. Encore une fois, on revient sur l'histoire de Brian Eno et de la musique. On va utiliser ces cartes que j'ai utilisées pour raconter cette histoire, pour raconter d'autres histoires en musique, tu vois. Et donc au final, on va créer du son comme ça. Et en octobre, je vais créer donc des vidéoclips. Alors pour l'instant, c'est vraiment c'est un peu à l'impro, hein, mais on va créer des espèces de vidéos en boucle qui vont accompagner cette musique. Et donc en novembre, pour accompagner la sortie de l'album de BD, sortira donc gratuitement sur YouTube et Spotify, Deezer, etc. un album de musique pour accompagner en fait la lecture de cet album.
Wow.
Donc un espèce de projet à la fois complémentaire. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est rigolo, c'est que pour tous mes albums en fait de Lou, j'ai toujours ce système de cartes qui naît en parallèle, tu vois, et donc tu fais partie des seules personnes qui les voient pour la première fois comme ça réellement. Mais
je savais pas.
Enfin, même s'il y en a quelques-unes sur Instagram.
Ouais.
Donc,
j'avais pas compris que c'était un tout.
Mais j'ai jamais trop expliqué tout ça. Hein. Je fais énormément de choses que les gens ne voient pas, en fait, des marionnettes, des trucs et tout ça, et en fait, qui sont des choses qui me permettent d'aboutir à Lou. C'est-à-dire que c'est de prendre des chemins très détournés pour finalement arriver à un résultat. Et par exemple, la musique, ça fait partie du truc, et que à chaque fois que je travaille sur un album de Lou, en parallèle, quasiment tous les soirs depuis 20 ans, je fais 2-3 heures de musique pour mon plaisir.
Ah ouais.
Et donc, j'ai énormément de maquettes et qui sont à chaque fois des espèces de boucles ou d'instru qui vont en fait me permettre de cerner aussi d'une autre façon mon propos en bande dessinée en fait. Et donc c'était aussi une façon, si tu veux, d'unifier là avec cet album de musique, d'unifier les pratiques, et puis aussi cette volonté de travailler avec d'autres musiciens, d'autres artistes, et de nourrir ce que j'aimerais bien, qu'ils deviennent vraiment une troupe, parce que on s'entend tous très bien ici à Aix, et qu'on a plein de très bons copains qui sont des artistes intéressants, qui sont des comédiens, qui sont des cinéastes, des musiciens, etc. Et puis de cette collaboration, j'aimerais que naissent de plus en plus de choses. Et c'est vrai qu'une de mes volontés d'ici quelques années, c'est de revenir à la série animée, bizarrement. C'est mon rêve, c'est mon ambition. Alors là, c'est vraiment une exclue à très long terme, hein, parce que ça se passera peut-être d'ici 2-3 ans. Mais de travailler sur un projet de série animée autoproduite, qui mettrait d'ailleurs en scène les personnages de ces cartes.
Et, c'est quoi, c'est des démons, c'est ça?
C'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait. Okay. Faut imaginer une sorte d'univers un peu façon justement Musclor et les maîtres de l'univers, mais où il y aurait absolument pas trop d'histoire de quête de pouvoir, quelque chose comme ça. À la place, ça serait des personnages qui auraient des aventures humaines et amoureuses, et donc grosso modo la série raconterait le parcours amoureux et érotique et sensuel de deux personnages, donc qui sont Pearl, la fille rouge, et le barbare, qui est le mec avec le casque. Et donc voilà, c'est mon gros projet à long terme. Et donc ça sera une série animée et musicale.
Tu avais publié dans une sorte de petite
dans Pandora, oui, il y a eu quelques
bandes-annonces, c'est ça, ou...
Ah oui, il y a eu des, oui, j'ai fait des petits essais sur YouTube. Alors c'est, il y avait, je peux pas te la montrer, mais il y avait en privé sur YouTube un teaser que j'avais fait comme ça il y a quelques mois. Peut-être que je t'avais montré quand j'étais passé à Mademoiselle.
Non, mais j'avais. Je pense qu'on est liés sur Facebook ou je sais pas quoi, et je pense que je faisais partie de. J'avais vu ce petit truc.
J'avais fait plusieurs petits essais, et puis c'est vraiment. Mais récemment, ce qui est drôle, c'est que la vidéo que j'avais mise en privé, qui était juste pour moi et pour montrer à des gens éventuellement, a été virée par YouTube parce qu'il y avait des trucs un peu cochons dedans, donc apparemment. Donc là, je peux pas te la montrer là, il faut que je refouille dans un disque dur, mais il y a un bout d'essai de ce truc-là qui est fait déjà.
Ok. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des trucs dont tu aurais voulu parler dans ce micro et dont je t'ai pas, sur lequel je t'ai pas questionné?
Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai été extrêmement trop bavard déjà.
Pas du tout, parce que c'est un peu le contexte,
non, alors là, c'est effectivement, je suis très bavard et tout, parce que je suis aussi dans justement ce dernier rush.
sur la finalisation de l'album. Donc c'est un mouvement très positif et dans lequel je suis un petit peu exalté. Mais voilà quoi.
Si je t'ai pas demandé, tu me disais justement que juste avant qu'on commence à enregistrer, que cette année tu avais décidé de prendre un peu soin de ta santé, alors qu'avant tu avais un process qui était très destructeur entre guillemets pour ton corps, où tu travaillais. Ah,
tout à fait.
Nuit,
ça s'appelle la quarantaine en fait. Non, ça s'appelle le fait que t'as tiré la chandelle par les deux bouts pendant des années. Non, ensuite un truc très intéressant, effectivement, qui tombe avec le fait que je fais un travail sur moi-même, etc. Tout un truc sur l'atavisme, c'est-à-dire que j'ai, grosso modo, mon papa qui est mort il y a 2 ans, qui était très alcoolique, etc. J'ai été élevé avec cette espèce de conviction que pour créer, en fait, t'avais à payer un tribut de ta personne, etc. Et en fait, je me suis rendu compte très récemment, en fait, que c'était complètement faux. Et justement, que par exemple, tous ces bouclages d'albums que j'ai toujours fait un petit peu dans la douleur et dans la souffrance, en m'infligeant des trucs, etc. Là je vais le faire plutôt en prenant soin de moi, en faisant du yoga, en faisant de la méditation, en arrêtant de fumer de façon déraisonnable, même si là pendant l'interview j'ai fait un break, que je les enchaîne, je le sais, mais justement ça fait partie des trucs, tu vois, j'arrive non bah enfin voilà, un truc de quarantaine, tu vois, un truc classique, et effectivement bah ça fait vachement de bien, et donc je me retrouve à la fin de cet album, alors que jusqu'ici j'étais à la fin des albums, une personne généralement assez désagréable et et névrosée, etc. Là, je me retrouve bien détendu et c'est bien agréable. Voilà.
Ben, bravo pour ce chemin sur toi.
Et ben merci à vous.
Et puis ben, rendez-vous en novembre alors.
Ça marche.
C'est quoi la date exacte de la sortie de
novembre.
Suivez donc
la chose sur Instagram.
Voilà, je vous mettrai tous les liens si vous voulez voir. Parce qu'aussi, je vous mettrai en photo des liens vers les fameux personnages dont on parle, parce que c'est pas du tout radiophonique.
Voilà.
Si vous voulez voir un petit peu l'univers de cette. C'est quoi d'ailleurs de cet univers, tout simplement,
je sais pas ce que c'est. Voilà. C'est mon inconscient.
Si vous voulez voir l'inconscient.
L'inconscient à nu, effrayant et sordide.
Merci Julien.
Mais de rien.
Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Lenny Le Guelec, qui a mis 5 étoiles et qui écrit un podcast humainement intéressant à travers les parcours de vie des invités à mettre entre toutes les oreilles. Merci beaucoup à toi. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.